Et le deuxième tome du livre des petits qui répertorie toutes les familles juives de Bruxelles de 1886 à 1910 vient de paraître sous l'égide de l'Institut d'études du judaïsme. On en parle, Blaise van der Linden en parle avec son auteur Philippe Pierret. Il est enseignant-chercheur et historien des religions et des systèmes de pensée spécialisé dans l'histoire du judaïsme de Belgique et de France et est par ailleurs ancien conservateur du musée juif.
Philippe Pierret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, chercheur, historien des religions et des systèmes de pensée, spécialisé dans l'histoire du judaïsme de Belgique et de France. Vous êtes également ancien conservateur du musée juif de Belgique. Vous venez de faire paraître le deuxième volet du livre des petits, véritable brique de la mémoire qui répertorie les familles juives de Bruxelles de 1785 à 1885 dans le tome 1 qui est paru en 2015. Et donc, vous sortez le tome 2 maintenant. Alors, pour commencer, Philippe Pierret, vous pouvez nous raconter l'histoire de ce livre?
Oui. Alors, le tome 1, qui a pris pas mal de temps, en réalité, ça prend 10 ans, parce que je n'avais qu'un jour par semaine pour me consacrer à une recherche plus détaillée. C'est un ouvrage qui parle des familles juives installées à Bruxelles, parce que j'ai rencontré toutes ces familles lors de ma thèse de doctorat. J'ai fait une thèse à Paris il y a bien longtemps. Et j'étais parti du cimetière de Diewijk, de l'ensemble des épitaphes et de tout ce qu'on nous raconte sur les pierres tombales à Uccle, qui est le plus vieux témoignage de la présence juive à Bruxelles. Et je ne savais que faire. J'avais des dizaines de milliers, pour ne pas exagérer, des dizaines de milliers d'archives que j'avais consultées, que j'avais bien évidemment un peu exploitées pour ma thèse, mais dont la partie principale restait en friche. Et donc je me suis beaucoup documenté, j'ai lu des historiens juifs et non juifs qui s'intéressent à ça aussi, qui s'intéressent aux petits, avec des exemples en France, des exemples en Belgique. Et puis je me suis lancé dans cette magnifique histoire, d'essayer de raconter l'histoire des petits, non pas de ceux qu'on connaît, ne fût-ce que par les noms, les grands noms, pas les banquiers, pas les grandes familles Goldschmidt, Rothschild, Herrera, Philipson, même si, bien évidemment, ils sont dans mon ouvrage, dans les deux ouvrages, puisqu'ils sont commencés comme petits. C'est un peu une la palissade, mais les grands ont bien commencé petits. Mais je voulais aussi parler de cette masse bizarrement informe, importante, dont on ne parle pas ou pas assez. On a tendance à trop résumer, si on vous dit « Ah oui, les Juifs de Bruxelles, ils sont tous... » à l'époque où je commence, 1785 jusqu'en 1885, ils sont tous colporteurs, en gros, ils vendent. Non, c'est plus fin que ça. Et tous les Juifs d'Arlon ne sont pas tous des marchands de vaches et des marchands de chevaux. Donc voilà, ça vaut la peine d'aller au-delà des archives officielles, entre guillemets, des recensions faites par le ministère des cultes, entre autres, mais vraiment de s'attacher à l'épluchage des archives dans les grands dépôts bruxellois, les archives nationales, les archives royales à Bruxelles et les archives communautaires. Et l'ensemble donne un panel assez étonnant, intéressant, qui évidemment ne traite pas chacune des personnes. J'ai à chaque fois 1200 personnes par volume, vous vous rendez compte, c'est énorme. Mais j'ai tâché de faire des microbiographies, parfois très courtes, parfois je n'ai rien d'autre qu'un nom, une parentèle, une origine, un métier. Mais quand je peux, je raconte une petite histoire, une petite anecdote. Et c'est ça qui m'a passionné au point de faire 2 tomes et puis d'être arrêté par la législation la législation en matière d'archives pour la vie privée ne nous permet pas d'aller au-delà des 100 ans. Donc, en gros, je ne pourrais aller jusqu'en 1924 si mon volume 3 était prêt, ce qui n'est pas du tout le cas.
Justement, vous mentionnez ce volume, ce tome 3, et vous avez également parlé de la ville d'Arlon. C'est l'objectif de votre tome 3.
Exactement, parce que j'ai commencé en fait des recherches il y a très longtemps à Arlon. J'avais eu l'occasion de faire l'inventaire du cimetière et j'ai une passion pour les cimetières qui m'a été transmise par mon directeur de thèse, Gérard Naon. D'ailleurs, le volume lui est dédié. Il est décédé il y a peu, quelques années. Et Gérard Naon, qui était à Paris, mais qui est venu enseigner pendant plus de 20 ans à l'Institut d'études du judaïsme ici à Bruxelles, dont je suis issu aussi. Et voilà, à Arlon, j'ai eu l'occasion de faire l'inventaire des textiles, de les traduire, toutes ces mapotes, tous ces langes de circoncision, et puis aussi l'inventaire du cimetière. Et j'ai consacré un ouvrage qui est paru dans les archives, dans les annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. Et c'est une communauté fascinante parce qu'elle a un degré d'intégration tout à fait inégalé. C'est évidemment une communauté bien plus petite qui a donné naissance à la communauté de Namur, à d'autres communautés, mais qui est restée assez longtemps en place, même si à partir de la guerre de la Première Guerre mondiale, beaucoup de familles quittent la région, se dirigent soit retournent vers la Moselle d'où ils venaient, ou l'Allemagne, ou la Hollande. Une part vient à Bruxelles, mais donc aujourd'hui la communauté, c'est malheureux, est moribonde, mais il y a là un des plus vieux ou la plus vieille synagogue subventionnée, c'est-à-dire construite par une dizaine d'années avant la grande synagogue de Bruxelles. Il y a une belle petite communauté qui s'est épanouie, qui s'est très très bien intégrée, qui a bien réussi, où je dirais l'indigence était bien moindre qu'à Bruxelles. Dans les grandes communautés d'Anvers et de Bruxelles, on oublie de le dire, c'est ça aussi l'importance de ces ouvrages, c'est faire la chasse aux préjugés, tous les juifs sont banquiers ou professeurs d'université, ils sont tous riches. Non, il y avait une indigence catastrophique. J'ai eu l'occasion, je suis loin d'être le seul, de publier les premiers rapports d'indigence juste après la Révolution, juste après 1830, juste après l'indépendance de la Belgique. Et on voit que ces familles arrivaient dès 1750, qui sont courageuses, qui sont marchands de vin, marchands d'huile, qui viennent d'Angleterre, de Hollande, de partout, ont énormément de besoins, puisque 50 ans après, ou un peu plus, je calcule mal, 80 ans plus tard, ils sont répertoriés comme indigents, obérés de dettes, avec des familles énormes, des 7, 9, 12 enfants, comme c'était bien le cas dans les communautés juives d'Europe, tout comme les familles chrétiennes qui faisaient beaucoup d'enfants.
À vous entendre, c'est vraiment un travail gargantuesque que vous avez fourni.
Alors gargantuesque, oui, parce que c'est une matière à avaler, c'est une matière à digérer, c'est une matière... oui, moi j'ai un goût pour l'archive qui évidemment a été bien décrit par Arlette Farge. Arlette Farge parle du goût de l'archive dans un ouvrage extraordinaire, c'est une historienne française qui s'est aussi intéressée aux petits, mais à différentes choses, aux gens... aux archives de police, aux criminels et tout ça. Et c'est passionnant, elle raconte comment ça se passe dans les grands dépôts d'archives en France. C'est une historienne que j'ai suivie, à qui j'avais d'ailleurs demandé une préface pour le tome 1, mais qui s'est très pudiquement refusée à faire cela et qui m'a dirigé vers quelqu'un d'autre.
On remarque que donc la communauté juive de Belgique est forte. Aujourd'hui, dans les temps qui courent, c'est important de le rappeler. On a eu les chiffres de l'antisémitisme en Belgique qui sont sortis récemment. C'est très grave. C'est avec ce genre d'ouvrage qu'on transmet la mémoire et qu'on lutte l'antisémitisme.
Exactement. C'est très important. Moi, je ne fais pas tellement œuvre d'histoire de l'antisémitisme. J'ai eu du mal même à en parler dans le tome 2. Pourtant, on y est. Il y a des représentations caricaturales, haineuses, déjà dans le tome 1 aussi. Un fameux colporteur à Anvers peint par le frère du grand artiste, ça va me revenir. Bref, qui dépeint un colporteur vraiment sous un mauvais jour, qui est arrêté par la police, appréhendé par les femmes. Enfin bon, c'est... On est en plein dans l'imagerie caricaturale qui renvoie évidemment à mon activité d'aujourd'hui, puisque moi, je me suis occupé pendant 3 ans de faire l'inventaire de la plus grande collection d'images antisémites réunies par Arthur Langermann, mm-hmm. qui a été fait Mensch de l'année il n'y a pas longtemps, et pour lequel nous faisons tourner des expositions sur le thème de la collection. Et là, on peut vraiment voir un panel, mais ahurissant de choses, d'objets, de livres pour enfants, tout ce qui a été conçu, la littérature dans tous les pays d'Europe, qui il y a toujours son juif, son personnage déplaisant, et comment petit à petit, en plusieurs centaines d'années, bon, 2000 ans de mépris selon Jules Isaac, avec l'anti-judaïsme chrétien, mais il y a aussi tout cet anti-judaïsme culturel qui fait qu'on a instillé vraiment dans les esprits et dans les cœurs de tous nos concitoyens, la haine de l'autre, la haine du juif, la phobie de l'étranger, et c'est comme si le juif avait représenté toutes les facettes de la xénophobie, avec évidemment des moments phares, celui en Belgique, des suites de l'affaire Dreyfus en France. On voit que dès la fin du 19e siècle, les choses deviennent plus compliquées. À part des petits sobriquets qu'on avait dans le tome 1 pour le 18e siècle, ben on passe à quelque chose de plus dur, à une imagerie plus vulgaire. Et finalement, nous pensions, beaucoup de scientifiques pensent que la Belgique avait été épargnée par ce phénomène. Pas du tout. Arthur Langermann, aujourd'hui encore actif, malgré son âge vénérable, continue à trouver, à dénicher des pièces incroyables d'un antisémitisme virulent. Ça ne fait pas des artistes belges des grands antisémites, parce que la plupart du temps, ces gens n'ont fait qu'une œuvre. Mais une œuvre d'une telle force, d'une telle, comment dirais-je, d'un tel aplomb que je vous avoue que même moi qui suis du domaine et dans l'histoire du judaïsme belge depuis si longtemps, je suis très interloqué par ce que Arthur et d'autres arrivent à trouver. Donc petit à petit, au sein de la collection Langermann, qui est principalement allemande, internationale, russe, tout ça, nous faisons la part belle aussi aux pièces belges, et typiquement belges, des affiches, des tableaux, des tapisseries, les vitraux. Allez voir les vitraux de la cathédrale Sainte-Gudule, c'est quand même assez effrayant. Bon, c'est peut-être une bonne chose. C'est vrai qu'on ne les voit plus quand on passe, on ne fait pas attention à ça. Mais si vous faites attention, prenez le temps de les regarder, vous verrez à quel point il y a une violence dans la description, là, de nouveau, d'une légende inventée de toutes pièces et qui s'est répétée à l'envi dans plus de 25 villes d'Europe. Et qui malheureusement, si tout ça était faux, a créé des décès. On a tué des juifs pour ça, pour ces prétendues accusations de profanation d'hostie.
Philippe Pierret, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, historien des religions et des systèmes de pensée, spécialisé dans l'histoire du judaïsme de Belgique et de France. Vous êtes également ancien conservateur du Musée juif de Belgique. On rappelle donc également que vous venez de faire paraître le tome 2 du Livre des Petits sous l'égide de l'Institut d'études du judaïsme. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïque.
Merci à vous.